voix nue. Bonjour à toutes et à tous, à voix nue, quatrième entretien avec vous, Claude Régis. Vous êtes considéré par certains comme le grand maître du théâtre français contemporain, par d'autres comme un intello du théâtre pour qui les représentations sont littéralement insupportables. On reviendra sur cette notion d'insupportabilité. J'ai eu la chance, depuis une bonne trentaine d'années, de pouvoir aller assister, pas assister, d'ailleurs le mot n'est pas convenable, participer, vivre de l'intérieur, au risque d'en être complètement bouleversé, de nombreuses mises en scène de vous. Et à chaque fois, c'est la même histoire, c'est-à-dire c'est la même attente, c'est le même cœur qui bat, c'est le même la même inquiétude d'une incertitude dont on sait qu'elle va vous fêler l'intérieur de votre cœur et de votre corps. Et à chaque fois, je vous ai vu, vous, pourtant vous vous cachez. Quels que soient les théâtres où vous agissez, au fond, comme une sorte de prêtre laïque, au fond de la salle, avant que la représentation ne commence, comme quelqu'un qui dirige toute sa force magnétique vers l'idée même de représentation et vers peut-être le possible accompagnement de cette odyssée extrêmement dangereuse qui est pour nous tous, c'est-à-dire pour les acteurs, pour vous, mais aussi pour les techniciens, mais aussi pour nous, spectateurs, cette odyssée dangereuse qui est une représentation de Claude Régis.
Oui, c'est tout à fait juste ce que vous dites là. En effet, j'ai assez vite, pas les premières années, mais assez vite pris l'habitude d'être là tous les soirs. Là, vous parlez du moment où la présentation va commencer, parce que je reste aussi pendant le cours de la présentation, ce qui n'est pas non plus mince à faire. Mais je crois que vous avez très bien analysé les choses. Et l'état dans lequel je suis, c'est... En fait, c'est ça qui est... Cette aventure de la rencontre entre ce qu'on a préparé et ce qu'on espère transmettre... avec cette masse qui change tous les jours, qui change beaucoup plus qu'on ne le croit, d'ailleurs, et on peut parler de ça parce que chaque assemblée a une influence énorme sur le spectacle. Peut-être encore plus dans ce genre de travail, puisqu'on demande une part de création au spectateur et un ressenti particulièrement vivant et particulièrement aigu dans des zones peu confortables où on n'aime pas toujours aller, dans une image de soi-même aussi ou qu'on n'aime pas tellement regarder. Et je sais par expérience évidemment que chaque soir il y a une partie du public qui ne peut pas adhérer à cette recherche-là, dans ce sens-là, soit qu'ils aient une idée autre du théâtre ou de la littérature ou du spectacle ou de la vie, et qu'alors le manque de représentation, d'activité, la lenteur, le silence ou les cris, que tout dérange et c'est un obstacle. Et la nouveauté aussi, parfois, des textes agit. C'est une histoire très connue, puisqu'on a parlé de la chevauchée, que peut-être c'était dû au fait qu'il y avait beaucoup d'acteurs très starifiés, ce que j'avais fait volontairement, parce que Hanck avait écrit pour des stars du cinéma expressionniste. Et il avait mis les noms de ces grands acteurs, Emil Jannings, par exemple. Et il disait dans une note, il faut pas mettre ça sur le programme, il faut mettre le nom des interprètes. Donc, j'avais pensé qu'il fallait starifier aussi. Et c'est une histoire de star, c'est-à-dire où la vie privée et la vie des films tournés, en train de se tourner ou déjà tournés dans le passé, ou les histoires d'amour qui peuvent se créer au moment d'un tournage où on raconte une histoire d'amour, etc. Tous ces plans-là devaient se mélanger. Donc, à cause de cette starification, le public s'est trompé et croyait venir à une belle soirée de théâtre très, très élégante, très chic et certainement très agréable et tomber sur un objet complètement hétérogène pour eux. C'était encore dans la pleine époque du théâtre politique. Et donc là, il n'y avait pas de signification claire et les significations qui étaient enfouies étaient très difficiles à décrypter. Et les gens n'étaient pas entraîné à décrypter les écritures. Donc le refus, l'irritation, la colère a été extrêmement violente. Mais je pense que chaque fois, alors c'est très délicat parce qu'on peut pas dire qu'on cherche à ce que le public sorte ou hurle de fureur. Mais en même temps, si Sarah Kane le disait, ça, parce que elle aussi, ses premiers spectacles ont été très attaqués et sa personne a été scandaleusement dépréciée. Elle disait que, bien sûr, c'est très douloureux de voir sortir des gens quand on est là, que les gens vous marchent presque sur les pieds et qu'il faut leur ouvrir la porte pour, en espérant qu'ils sortiront un peu plus silencieusement. Mais c'est extrêmement douloureux. C'est comme si on vous arrache quelque chose de votre... Je ne sais pas s'il faut dire corps ou âme. Pour moi, c'est la même chose. Donc, on arrache. Mais en même temps, je vois tellement de spectacles totalement ineptes, où les gens sont très patients, assistent à la fin, sont là nombreux, applaudissent de tout cœur, admirent l'œuvre, l'écriture, le jeu si naturel des acteurs. Qu'évidemment, il y a un divorce très grand, mais que ces représentations où il ne se passe aucune révolte, qui ne dérangent pas, qui ne font rien bouger dans tout ce qui est déjà admis, je crois que c'est inutile, enfin, ça ne sert à rien. Donc, c'est pas chercher la provocation de faire sortir le public. Et c'est une souffrance de le voir sortir. Mais en même temps, de voir une salle qui avale ça comme une chose déjà digérée, c'est quand même pas très bon signe. On dit que la pensée commence quand on pense quelque chose qui n'a jamais été pensé. C'est bien difficile. Je pense pas qu'on y arrive. Mais quand même, c'est vers ça qu'il faut tendre. Donc, si on représente quelque chose qu'on a déjà représenté, si on exprime quelque chose qu'on a déjà exprimé, si on retombe dans une forme qui a déjà été vue, rien n'avance, rien ne bouge. Et quand rien n'avance, tout recule. C'est un terrain glissant et on se laisse entraîner au fond des abîmes.
Est-ce que pour vous, le théâtre, vous qui avez accompli un cheminement en passant par des palettes d'auteurs extrêmement différents, de par leur nature artistique et de par leur composition architecturale, est à la fois une épreuve initiatique ou une espèce de temporalité suspendue qui fait que le spectateur n'est pas le même une fois qu'il sera sorti de la salle ?
C'est un rêve. Bien sûr, je crois que c'est arrivé quelquefois. On reçoit quelquefois des lettres ou des signes de ça. Et c'est ce qui justifie le fait qu'on fait ce travail, qu'on continue à le faire et qu'on continue à le faire à des gens et à trouver aussi des capitaux pour le faire. Oui, je crois.
Il y a la réalité, il y a le réel, il y a le surréel, il y a le monde des morts, il y a le monde des vivants.
Et il y a le monde des non-nés. Voilà. Parce que j'ai été très frappé, justement, que dans cette pièce 448, Psychose, entre autres, phrase lapidaire, elle a écrit « J'écris pour les morts et les non-nés ». Et ça m'a d'autant plus frappé que j'avais mis en exergue dans des bouquins une phrase de Clé, qui dit « mon ardeur », c'est très intéressant qu'ils disent « ardeur »,« mon ardeur est de l'ordre des morts et des non-nés ». Alors, ça fait penser beaucoup, parce que c'est vrai qu'on n'y pense jamais. et que c'est une population très très largement majoritaire.
Les non-nés.
Ben oui, mais tout ce qui n'est pas né, et cette chose est aussi dans l'Ecclésiaste. Et je préfère les morts aux vivants, et plus que les deux, ceux qui encore n'a pas été. Donc c'est vrai que c'est important de voir ceux qui ne sont plus, cette grande population de tous ceux qui ne sont plus, face à cette immensité innombrable de ceux qui n'ont pas été, qui n'ont jamais été. Et ça ramène à une métaphore de l'écriture, parce que il y a tout ce qui n'a pas été écrit. Dans une œuvre même, il y a ce qui reste dans le livre, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été écrites, qui ont été abandonnées, beaucoup de choses qui ont été pensées, prévues, notées quelquefois, qui a disparu. Et que donc la part d'un créé fait partie de la création, et que ce qui n'est pas dans le livre, qui n'est pas resté dans le livre, ou ce qui n'a jamais été écrit, fait aussi partie du livre. Comme Merleau-Ponty dit que ce que le peintre n'a pas représenté fait aussi partie du tableau. Donc ça rejoint ce qu'on disait, que ce qui n'a pas été écrit est aussi dans l'écriture. Et que c'est cette part-là, d'ailleurs, qu'il faut essayer de sonder et de capter. Donc cette masse, cette assimilation des morts et des non-nés, c'est comme tout d'un coup étendre énormément la surface de l'humanité vivante. Mais c'est se dire que ceux qui n'ont jamais existé agissent aussi sur nous, comme ceux qui sont morts continuent à agir sur nous. Que nous vivons d'ailleurs dans des villes qui ont été construites par des morts, la plupart du temps. Parce que la vie humaine est très limitée, donc même l'architecture la plus moderne deviendra très vite l'œuvre de gens qui sont morts. Donc c'est cette espèce d'immense territoire de l'incréé qui est mêlé au créé, qui fait partie du créé et qui s'exprime en même temps. Ça, c'est des choses que Agamben développe dans le livre qui s'appelle Stands, et qui sont tout à fait importante. Et il citait d'ailleurs l'œuvre de Mallarmé, Le tombeau d'Anatole, sur la mort de son fils. Et c'est vrai que c'est un sujet, voilà, un sujet sur lequel on ne peut pas parler. On peut en écrire, mais on voit bien que le fait que Mallarmé n'ait publié que des notes n'est pas simplement une impuissance à faire l'œuvre. Et que dans ce qu'il n'est pas écrit, puisqu'il a quand même décidé de le publier sous cette forme de fragment, il a bien pensé que le fragment pouvait être une œuvre, et que devant exprimer quelque chose d'inexprimable, il n'y avait que les blancs, que les trous, que les absences qui pouvaient d'une certaine façon en rendre compte. Et finalement, peut-être que vous demandiez qu'est-ce qui fait qu'une écriture convoque. Je crois que c'est ça. C'est quand on sent cette part d'incréé. Je parlais de la part de l'inconscient, et certainement qu'elle baigne l'une dans l'autre. Et quand cette part d'incréé est suffisamment vaste et qu'elle est présente et qu'elle trouve le moyen de se manifester. Alors c'est peut-être ça le génie inconscient des écrivains, parce que personne ne peut organiser ça. Mais quand ça se rencontre, je pense qu'alors on a quelque chose qui nous fascine et qui nous attire, et quelque chose dans laquelle on se reconnaît vraiment, parce que on ne peut pas faire abstraction de ce temps qui a précédé notre naissance et de ce temps qui continue après notre mort. Le temps, nous ne sommes pas maîtres du temps. Nous naissons dans un temps qui existe, et le temps continue à exister après nous. Et l'humanité continue à exister aussi, et la mort continue à exister aussi. Mais notre mort à nous, elle est forcément solitaire, et elle est donc forcément relative. Mais la continuité de la vie, pour le moment, est assurée sur la planète. Il y a une espèce de reproduction, de renouvellement, qui fait que les espèces, pas seulement les hommes, les crapauds aussi, les girafes, continuent à se perpétuer, et que la vie demeure. Les girafes meurent, mais l'espèce de la girafe demeure. Il y a des espèces qui ont disparu, et des espèces qui se transforment. Mais cette vie-là, qui est éternelle d'une certaine façon, tant que le temps, on ne sait pas quand le temps a commencé. Il paraît que c'est un abus de langage de parler du temps zéro. On ne sait pas qu'est-ce que pourrait être le temps avant le temps. Donc il n'y a pas de début au temps. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le temps ? Nous vivons dedans sans du tout le connaître. Pourquoi on a assimilé le temps et la mort, qui sont deux absolus et deux absolus inconnaissables, deux inconnus absolus ? Et peut-être que la vie, la mort, le temps sont des catégories auxquelles nous n'avons pas accès. Et que peut-être c'est comme une image de Dieu, cette idée-là. C'est quelque chose qui nous est complètement hétérogène, mais qui nous fascine et dont on a envie de s'occuper. Et je crois que c'est ça qui est dans les œuvres que nous travaillons, comme elle est en général dans la plupart des grandes œuvres, comme elle est dans la peinture, autant que dans la littérature, autant que dans la musique d'ailleurs. Les sources sont les mêmes, les moyens d'expression changent, mais les sources sont les mêmes, et c'est quelque chose qui nous traverse, mais quelque chose qui nous échappe complètement, quelque chose que nous ne pouvons pas dominer, que nous ne pouvons pas analyser, que nous ne pouvons pas expliquer. Et je crois que c'est ça qui est beau au théâtre, c'est d'avoir accès à cet univers qui en principe ne nous appartient pas, quoi, qui nous à la fois nous dépasse et à la fois nous est inexplicable.
Dans ce hors-temps, dans ce hors-champ et dans cette perdition du sens où nous sommes tous portés quand même et tout de même par la continuité de la vie, il y a Maeterlinck. Et c'est pas un hasard si vous l'avez choisi. C'est une élection.
C'est sûrement pas un hasard. Et je crois que d'ailleurs, il est encore de nos jours mal jugé. Il a été enterré au nom de la préciosité du symbolisme en général. Mais c'est un homme d'une force incroyable. D'ailleurs, il faisait de la boxe. C'est pas du tout quelqu'un de fragile comme un papillon, comme les pétales d'une fleur. Mais il a fait ses études de spiritualité, il a fait ses études métaphysiques, il a fait ses études sur les insectes, sur l'instinct. Il a fait des études sur le cosmos et sur l'univers. Donc c'est aussi quelqu'un qui ne s'est pas du tout cantonné dans la création artistique, et que d'ailleurs c'est la forme de ses œuvres ont énormément changé. Et personnellement, j'aime beaucoup moins ces pièces de la fin de sa vie où il a essayé de rejoindre le réalisme d'une certaine façon, alors que c'était si fantastique quand il écrivait ces pièces où la mort est complètement centrale. Mais bien sûr, j'ai analysé que pour lui, il ne s'agit pas de parler de la mort, il s'agit de parler de ce matériau. La mort est exemplaire de ça, c'est-à-dire on connaît rien de la mort. Et en même temps, on peut pas dire qu'on ne connaît rien de la mort, parce qu'on y a réfléchi, parce qu'on sait qu'on mourra, parce qu'on voit des cadavres, parce qu'on perd des êtres qu'on aime. On peut pas dire qu'on continue à développer des rapports vivants avec des gens qui sont morts sans faire de spiritisme. Donc, c'est cette fascination de cet inconnu connu, de comment connaître l'inconnu, de comment fréquenter d'une certaine façon, donc quand même connaître quelque chose qui est totalement inatteignable, totalement inconnaissable. Donc il y a là une recherche de l'absolu, il y a une interrogation fondamentale. Et ça me frappe aussi beaucoup que, il se trouve, c'est peut-être probablement un hasard, que les pièces que j'ai montées sont des pièces qui étaient écrites pour marionnettes. Et il y a toute la thématique des figures de cire, qui fascinait aussi Hervé Guibert, par exemple, et qui sont quelque chose de très troublant, qui sont comme la vie, sauf que la vie n'y est pas. Et que curieusement, ça nous fait encore plus peur parce qu'on n'y lit pas l'angoisse de la mort. Mais peut-être qu'on y reconnaît l'immobilité cadavérique. Je me souviens que dans la pièce de Witkiewicz s'appelait La mer, il y a un cadavre représenté, qui est donc un moulage qu'on avait fait de Madeleine Renaud. Et elle n'avait pas du tout envie de voir ce moulage, parce que c'était elle morte, en fait. Mais quand même, certaines fois, quand on arrivait en avance au théâtre, on la surprenait qui rôdait autour de la sculpture et du masque de plâtre qu'on avait, un moulage qu'on avait pris sur son visage. Donc le trouble de l'artificialité avouée de quelque chose qui en même temps est l'imitation même du corps humain, et que là, en même temps, c'est un moulage de son propre visage. C'est une interrogation très troublante. Je crois que c'est ça qui fait que toutes les premières œuvres de Metterlinck tournent autour de ce thème de la mort. Et bien sûr que ça m'a attiré et que ça m'a appris énormément de choses, et spécialement justement qu'on pouvait s'occuper de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et de quelque chose dont on ne peut pas parler, pour lequel on n'a pas de langage. Et on peut quand même s'en occuper. On peut quand même aller chercher, là, avec des acteurs disponibles, des êtres humains, c'est même plus une question d'acteurs, disponibles pour aller chercher, pour oser penser qu'on peut s'occuper de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas connaître, qui dépasse nos possibilités de connaissance et qui dépasse pour lequel on n'a pas de langue. La langue n'a pas été inventée. Il n'y a pas de langage, quoi. Donc il faut inventer un autre langage au-delà du langage ou en deçà du langage. On ne sait pas où, mais il faut tout inventer, en fait, en essayant de rester collé à cette chose impossible à voir, quoi.
C'est là où il n'y a pas de dissociation corps-âme. C'est là où il n'y a plus d'acteurs, c'est là où il y a eu du souffle et pas de la voix.
Voilà, absolument, absolument. On ne peut pas commenter, parce que c'est parfait ce que vous avez dit là.
Oui, mais comment on fait pour arriver à faire en sorte, quand on est metteur en scène comme vous, Claude Régis, pour arriver à faire sortir de ces êtres qui sont sur le devant de la scène, à peine éclairés,
très souvent. Si j'étais grossier, je vous dirais que ça ne vous regarde pas. D'ailleurs, Sarah Ken a osé.
Vous n'êtes pas grossier.
Osé dire ça. Il dit, je ne sais pas comment je fais et je ne vais pas vous le dire. Mais non, c'est pas que ça vous regarde pas, c'est que je n'en sais rien. C'est que si je le savais, ça ne serait plus ça. C'est-à-dire, ça deviendrait l'exploration par des techniques déjà employées pour du connu. Donc, ça ne marcherait pas.
Mais le Bunraku vous a intéressé, les arts de la marionnette vous intéressent au plus haut point, tout ce qui est autour du mode traditionnel du théâtre vous concerne.
Ben, je pense que la tradition, c'est très 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 important, parce que ça a attaqué depuis des millénaires, et ça a touché à quelque chose d'essentiel. C'est très frappant de voir que les grands thèmes des religions et de la façon de raconter la création du monde, la création de l'homme, les ratages qui ont eu lieu, mais toutes ces grandes idées circulent dans la totalité de la planète à une époque, même s'il y avait plus de navigation qu'on ne pourrait le croire, mais il n'y avait pas tellement de moyens de communication. Donc ce sont des choses sans doute fondamentales de l'être humain qui se sont retrouvées, s'exprimer dans les différentes parties du globe et dans les différentes ethnies, avec soi-disant des origines et des rapports à la Terre très, très différents. Donc c'est quand même un mystère. Donc il y a quelque chose d'essentiel qui est commun au fait d'être une créature, avec cette chose bizarre, justement, de l'homme. Je ne peux pas interroger les animaux à ce sujet, mais l'homme a cette...
Quoique.
Il y a des gens qui font, même, je crois, mais...
Claude Régis l'enchanteur.
Non, je n'ai pas de pouvoir d'enchantement. Je n'enchante pas mon public.
Merci, Claude Régis. On se retrouvera demain pour le dernier entretien, avec ou sans Merlin. À voix nue, Diffy Mariani, Laure Adler, on se retrouvera demain avec Claude Régis.
En juillet 2006, Laure Adler s'entretenait avec le metteur en scène Claude Régis. Retrouvez et podcastez la série d'entretiens sur franceculture.fr. Thank you.